Bonjour à tous et bienvenue à la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Jérémy Crédville, avec Alexandre Cominet.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau sera avec nous, Daniel Morin. Et là également, notre invité, Guillaume Néry.
Bonjour.
L'apnéiste Guillaume Néry qui vient nous parler de son livre chez Artaud, Nature Aquatique. C'est un bouquin passionnant, je n'y connais personnellement pas grand-chose en plongée sous-marine.
Ouais, nous par contre, ouais, on est calés.
Morgane adore la plongée.
Oui.
Voilà, donc on a une spécialiste autour de la table, on va voir... il va pas nous raconter n'importe quoi. Ouais, absolument.
Je vais à 18 mètres.
Avant de recevoir... Daniel, tu plongeais toi aussi ou pas?
Je plonge.
Mais en se bouchant le nez.
Bien sûr, oui.
Pour de vrai.
Premier niveau.
Vous faites vraiment la plongée.
Il faut aller vers l'arrière.
Première dame.
Les garçons aussi, plongée, pas du tout.
Moi, je sais qu'il faut aller vers l'arrière quand t'es sur le bateau, sinon tu tombes dedans.
Ok, très bien. Alors voilà.
Alors, on a affaire à des spécialistes.
Il y a tous les niveaux dans cette émission, c'est ça qui est bien.
Ça va être pointu.
On va discuter dans un instant avec Guillaume Néry de ce livre Nature Aquatique. On va revenir sur tous ses records. Il a été à 4 reprises recordman du monde. Il a fait des trucs assez fous, des clips pour Beyoncé. Notamment, ça c'est la partie très très publique, mais on va voir que son rapport à la plongée va plus loin que la performance sportive. Alors on va jouer autour du blind test, autour de l'eau, bien entendu. Premier titre.
Ah oh, c'est Cargo des Nuits.
Mais non.
Ah, c'est pas ça.
Qu'est-ce qui vous arrive
si, je sais, j'ai nanana dans le sang. Non. C'est Alain Chamfort.
Non. Non.
C'est pas lui. Enfin. Jérémy, elle veut de l'eau.
Morgane, de l'eau de là-haut.
Bravo Morgane.
Remets le ralenti.
De l'eau de là-haut.
J'ai dit Jérémy. Et le
soleil blanc, en régie, est-ce que c'est Jérémy ou c'est Morgane?
Bah dis ton prénom quoi.
Si. Ah, remets le truc.
C'est Morgane, me dit-on. Bon, Véronique Sanson, qu'est-ce qui vous arrive là sur ce premier? J'ai cru qu'on n'en trouverait jamais.
T'inquiète.
Premier point pour Morgane, on continue.
Jérémy.
Oui.
Les vacances au bord de la mer.
Bravo.
Jonas.
Bravo.
Tu m'as mis juste une note, je l'avais.
Jonas, mais qui?
Prénom?
Bravo Jérémy. On suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants. Un commentaire, Morgane Cadignan?
Aucun.
Ok, troisième titre.
Morgane, Human Nature?
Absolument.
Pardon, Michael Jackson.
Bravo.
Ouais, bah, excusez-moi.
Et où la flotte là-dedans? Non,
en fait, il y avait des pièges. Human Nature, nature aquatique. On va jouer autour de l'eau, des océans. Okay. Un truc un peu vaste.
J'espère qu'il y aura Henri Salvador.
Peut-être, peut-être pas. Peut-être dans l'émission. Quatrième titre.
Ah bon? Je viens de le dire.
Ça sent le Brésil.
Jérémy. Jérémy, c'est la biche et le.
Morgane, oui, c'est... Bah, non, c'est pas elle du coup. Les petites choses?
Non. Je cherche l'interprète. C'est la mort, le sommeil. Le titre, c'est Les eaux de Mars.
Ouais, ça joue. Un arbre
millénaire, un nœud dans le bois. Son prénom, c'est Georges. C'est un
chien. Moustaki. Orwell.
À qui je donne le bois?
C'est un point collectif.
Se trouve.
Tout le monde ce sont les
eaux de Mars. Un point collectif.
C'est le pied qui avance. Ça se prend. Pour une fois dans l'émission.
Ouais. Bon, deux points pour Morgane, un point pour Jérémy et un point collectif, on va dire comme ça. J'avais peur que personne ne le trouve, en fait. On poursuit, titre suivant.
Jérémy, c'est pas du Corneille, ça?
Non.
Alexandre Calogero?
Non.
En apesanteur.
Ouais, une petite vibe.
Il est reparti en dessous.
En sous-pesanteur.
Quoi?
Ça vous dit rien?
Non. J'adore que ça chante.
Grace Jones?
Non.
C'est une femme ou un homme?
C'est un homme.
T'as hésité.
C'est de la variété française?
Oui. Cette voix est particulière quand même.
La mer n'existe pas. Daniel?
Ouais.
Artmengo.
Bravo Daniel.
Bien joué.
Bravo. Artmengo, la mer n'existe pas. Un point pour Daniel, premier point pour Daniel. On continue à jouer autour de la mer, la nature, l'eau, l'océan. Avant-dernier titre. Vous êtes prêts?
Oui.
Concentrés?
Morgane.
Oh non.
Si, pardon, c'est
Alexandre.
Sous l'océan.
Non.
C'est complètement sous l'océan.
Bah ouais.
Et le roseau, il est toujours plus vert dans le marais d'à côté. Je veux dire. Henri Salvador.
Sous l'océan. Sous l'océan.
Sous l'océan. C'était pour toi, Doudou.
C'est ma musique d'enterrement et de mariage.
C'est le même jour.
Sous l'océan, Henri Salvador. 3 points pour Morgane, 1 point pour Jérémy, 1 point pour Daniel. Alex, c'est quand tu veux.
J'ai perdu un
c'est,
point la,
c'est le Super Banco. On joue toujours autour de l'eau, de l'océan, de la nature.
La Rousseau, j'ai bu de l'eau.
Morgane, Adèle ?
Non. Non, non. C'est français. C'est pas pomme. Mais...
C'est pas français.
Ah ouais. Elle est française, mais elle fait des efforts. Hein.
Alexandre ?
Ouais.
Taylor Swift ?
Non.
Non.
Vous connaissez cette voix ?
Oui.
Oui.
Sia ? Non.
Non. Non, non.
Alexandre Miley Cyrus ?
Non. Non, non, non.
Gilles Boulot. Tente des trucs tels que ça.
T'es interdit d'antenne. Tu sors.
Allez. Alicia Keys.
Bravo Daniel. Et ouais.
On aurait trop à dire.
Alicia Keys, et c'est une victoire s'il vous plaît de Daniel Morin. On l'applaudit.
Bravo, Daniel.
Ouh, et on a avec notre invité, hein. Monsieur Guillaume Méry.
France Inter. La bande originale.
Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Soyez le bienvenu au micro de la bande originale.
Quel
on va
courage.
Parler ensemble. Oui, c'est vrai, vous êtes courageux de nous affronter en ce jeudi matin.
Là, vous allez toucher le fond.
On va parler ensemble de votre bouquin Nature aquatique, publié chez Artaud, où vous racontez votre rapport à la plongée, à la mer de façon plus générale. Un bouquin hyper riche d'enseignements, je trouve. Je vous l'ai dit juste avant cette émission, j'y connais pas grand-chose à la plongée sous-marine. Je vous connaissais de nom, je connaissais votre présence médiatique, vos records. Vous êtes recordman du monde à 4 reprises. Vous étiez, c'est
j'ai
ça
été, ouais.
Ouais, vous étiez. Vous avez aussi, on vous a vu dans le monde de la culture, plus largement, avec un clip, notamment Running de Beyoncé, où on vous voit évoluer en présence d'une autre apnéiste sous l'eau. Donc on connaît cette image-là, mais on connaît pas le bonhomme, en fait. On connaît peu le bonhomme.
Et ben, je suis là.
Et ben, vous êtes là, et je suis ravie. Et vous allez vous raconter et nous raconter aussi ce qui est assez fascinant, ce monde sous-marin qu'on perçoit, nous, de très très loin. Et on a sans doute plein de clichés autour de ça. Ce bouquin commence par un événement saisissant, un événement qui est un point de bascule, en fait, dans votre existence. On est à Chypre, on est en 2015. Vous en avez beaucoup parlé, mais je crois que c'est important de raconter à nouveau ce trou noir, cet événement qui fait que tout d'un coup, vous repensez votre pratique, votre rapport à la plongée. Vous êtes à Chypre pour une... Est-ce qu'on dit une compétition ?
Oui, c'était une compétition, ouais. Mais surtout je tentais de battre un record du monde.
Ouais.
Mon cinquième, et donc en apnée, quand on annonce une performance... on descend le long d'un câble, donc c'était une espèce de fil qui est tendu à la verticale, et ce câble est mesuré, et donc quand on annonce une profondeur, on n'a pas à se poser la question de où on va jusqu'en bas, on récupère une petite plaquette, un témoin, et on remonte à la surface. Et donc j'annonce 129 mètres, qui était un mètre de plus que le record à ce moment-là. Et puis, je pars avec, évidemment...
C'est énorme, hein, 129 mètres.
Alors, c'est compliqué de se figurer. Quand on regarde à l'horizontale, c'est pas énorme, ça fait pas grand-chose. Et puis, dès qu'on le dresse à la verticale... Alors, je me suis amusé la dernière fois, j'ai vu que l'Arche de la Défense, par exemple, c'est 111 mètres. Et donc voilà, quand on est dessous, ça donne un peu une idée. Donc c'est un peu plus que l'Arche de la Défense.
Avec tout ce que ça implique, la pression sur le corps. Parce qu'en fait, vous dites cette plongée, elle dure 3 minutes et 19 secondes. Et je me suis dit, mais en fait, 3 minutes et 19 secondes, je pensais que c'était encore plus fou la capacité de ne pas respirer. Mais je crois que vous pouvez ne pas respirer pendant plus de 7 minutes 30, quelque chose comme ça.
Bouge pas. Sans bouger. Elle est
sans bouger. Sauf que là, il y a un effort colossal et vous allez très très bas.
Donc voilà, pour atteindre cette profondeur, j'y vais de manière complètement autonome.
Merci Jérémy.
Et donc je descends en palmant jusqu'en bas, donc je fournis un effort. Je me dis pendant cette descente, c'est C'est un peu plus long que d'habitude. D'accord. Alors, sachant que deux jours avant, j'avais atteint 126 mètres, ce qui était mon record personnel. Donc, j'étais vraiment au pied de cette tentative de record du monde. Et puis, j'arrive finalement en bas. Je récupère ma petite plaquette. Donc, quand je plonge, je ne regarde pas mes instruments, je ne regarde pas d'ordinateur, je n'ai pas de masque, j'ai juste un pince-nez. Donc, je vois une espèce de bleu, je vois que c'est sombre. Mais bon, je me pose pas de questions. Je suis arrivé en bas, je prends ma plaquette, je remonte. Et puis là, je peux pas trop vous raconter puisque je me souviens que de quelques bribes. Je me souviens le moment où je me réveille en surface puisque j'ai fait une syncope. Donc j'ai perdu connaissance à quelques mètres de la surface et je ne comprends pas qu'est-ce qui m'a amené à cet échec. Je sens que c'était un accident grave en plus puisque j'ai un peu de sang au niveau des poumons. Je mets du temps vraiment à revenir complètement à moi et en regardant mes instruments de plongée, je me rends compte que je suis allé à 139 mètres au lieu de 129 mètres.
Oui. 10 mètres d'écart avec l'annonce initiale avant de plonger.
Il y a eu une erreur.
Ils s'étaient trompés.
Ils se sont trompés. Ils ont réglé le câble 10 mètres plus profond.
Voilà. Et alors vous expliquez, et là c'est ça qui est fou, c'est que je découvre qu'en effet, avant de plonger, on annonce que l'organisation marque en effet la distance que vous annoncez pour que vous alliez que jusque-là, sauf que c'est fait de façon assez rudimentaire.
Très artisanale. Alors, pour eux, nous on le fait différemment, mais ça reste une pratique qui se professionnalise doucement, mais ça reste artisanal, encore très empreint d'amateurisme.
Vous expliquez quand même sans doute que les juges, les arbitres, toute l'organisation, il suffit qu'il y en ait un qui soit inattentif, mais c'est qu'en fait la corde elle est graduée avec des scotchs, avec c'est des repères de couleurs ou des scotchs, je sais pas, là c'était des scotchs,
vraisemblablement. Ouais, des scotchs, ouais. Et il y a un bout qui est parti et en fait on marque les câbles, on a une espèce de système de codification et donc il y a des marques par mètre et puis quand on est à des dizaines, il y a plusieurs marques, il y a une marque des dizaines qui est partie et donc du coup on a
mis qu'il y en avait qu'une de partie.
Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy?
Il serait allé encore plus loin.
Ah oui, non, mais là, attends,
je pense que... Là, je l'aurais senti. Ouais,
quand vous dites syncope,
il faut penser au retour,
après ça, vous racontez, physiquement, ça va, mais ça pourrait être très dangereux, c'est-à-dire que...
Oui, j'ai la chance, en fait, enfin, la chance, en tout cas, d'avoir énormément d'expérience, de m'être beaucoup entraîné, et donc, du coup, je pense que sur cette tentative de record-là, finalement, j'avais une certaine marge qui m'aurait permis de pouvoir gérer 2-3 mètres d'écart, pas 10 mètres, mais c'est cette marge-là, finalement, qui a transformé l'incident qui aurait pu être fatal en juste un bon accident.
Ouais. Mais du coup, ce record, il est à 139?
Ah bah non. Non, parce que pour être validé, il faut remonter en surface et être parfaitement clean. Donc voilà, donc une fois que je réalise tout ça, finalement assez rapidement, j'ai la sensation d'avoir fait la plongée un peu de trop.
Ouais.
Et je décide de prendre du recul et de...
C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le bouquin, on pourrait se dire, bah voilà, c'est quand même toute votre vie, vous travaillez tout le temps, vous êtes votre hygiène de vie, tout ça s'est aligné dans l'objectif de plongée, mais vous reconnaissez votre statut de victime dans cette histoire, mais vous n'êtes pas en colère, vous n'en voulez pas aux gens.
Non, parce que c'est un peu
alors que ça serait ça pourrait être évident aussi quand même d'être vraiment furieux.
Oui, bah de l'extérieur effectivement, c'est souvent ce qu'on me dit, mais nous on est une petite communauté,
une tribu. Vous
on
dites,
est une
hein.
tribu, on se connaît tous, on se serre entre guillemets les coudes pour ensemble faire connaître notre discipline, la promouvoir. Et finalement, les gens qui se sont trompés, il y en a deux sur les trois, ce sont des amis. Et l'erreur est humaine.
Ouais.
Donc, voilà. Évidemment qu'il y a eu de la colère sur l'instant, mais derrière, je sais le remords, je sais les regrets, je sais ce qu'il porte déjà, j'ai pas besoin de la rajouter en plus.
Quoi. Et vos proches devaient être dans un état de panique totale.
Alors j'ai bien géré l'histoire. Oui, alors sur le coup, évidemment, mes proches qui étaient sur site, mais les amis, les coachs, etc. Ouais. C'était un électrochoc dans la communauté. Ouais. Mais j'ai fait attention que toute la famille. J'ai prévenu avant. Ouais. Qu'il y ait les grands titres dans les journaux, il a frôlé la mort. Parce que il a frôlé la mort, c'est sûr que ça fait peur. Donc j'ai appelé tout de suite en disant bon, ça va, il y a eu un petit problème. Et donc du coup j'ai amené la chose avec.
J'ai perdu un poumon.
Ouais. Il a mis la BO de Ghost et tout derrière.
Et ce qui est passionnant, c'est que vous racontez cette descente là, vous racontez vraiment le détail, vous racontez les gestes aussi qui sauvent tout de suite la réaction quand vous remontez, on vous insuffle de l'air par le nez. Il y a toute la sécurité. On va y revenir parce que la plongée, je le découvre, est un sport d'équipe. ça m'est pas vraiment traversé l'esprit comme ça extérieurement. Vous remontez aussi à 2 jours avant la compétition. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que les sportifs de haut niveau que vous êtes s'interrogent vraiment beaucoup, j'imagine, sur leur état psychologique avant d'entreprendre une tentative de record. Et vous racontez comment il y avait des signes avant-coureurs, finalement. Cette plongée, elle aurait pas dû avoir lieu.
Oui, j'ai essayé de décrire très précisément. Je l'avais jamais fait encore. Et pour le coup, l'écrit, c'est quand même un exercice assez extraordinaire de... C'est comme une psychanalyse, ouais, presque. Et effectivement, il y avait une espèce d'anxiété assez inhabituelle qui était en train de monter.
Des angoisses.
Même vraiment une espèce d'angoisse très forte pendant une nuit, la veille de ma plongée à 126 mètres. C'est quelque chose qui m'arrive jamais. Autant l'apnée en record, pour le monde extérieur, ça peut convoquer l'idée de la terreur. Autant en tant que pratiquant, on le fait de manière très réfléchie, très mesurée, avec toute une sécurité. Donc, on ne part pas la boule au ventre et la peur au ventre à chaque fois. Sinon, ça serait un véritable cauchemar. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment quelque chose. Des cicatrices du passé qui se réouvraient. J'ai perdu une personne qui était un peu mon grand frère des profondeurs, qui était une personne qui m'a tout appris, qui m'a pris par la main il y a 15 ans, qui s'appelait Loïc Leferme, et qui a eu un accident dans un entraînement. Et tout ça, ça...
Qui pratiquait, lui, le No Limit.
Qui pratiquait le No Limit, la discipline du Grand Bleu. Voilà. On descend avec une machine, on remonte avec un ballon gonflé d'air. Et donc, tout ça, c'est mis à ressurgir et
ce qui est intéressant, c'est que quand vous parlez de Loïc, vous parlez aussi tout d'un coup de votre découverte, et elle est étonnante, cette découverte. Vous découvrez que vous pouvez mourir en plongeant, et je me dis, ça semble pourtant tellement évident.
Alors, ouais, il faut faire attention pour les auditeurs qui nous écoutent de pas se dire que l'apnée c'est une activité de fou furieux, pas.
Il y a très peu d'accidents.
Il y a quasiment pas d'accidents.
C'est très encadré. Vous faites un vrai travail sur vous-même pour pas trop vous faire confiance, pour pas tenter des choses folles. Vous êtes entouré.
Voilà, il y a quelques cas, qui restent gravés, notamment l'accident de Loïc, le mien qui a fait beaucoup couler d'encre.
Ouais. C'est un sport extrême, considéré comme un sport extrême.
Alors c'est un sport considéré comme extrême, je ne le considère pas dans une pratique récréative comme extrême.
Oui. C'est pas du sol élastique.
Moi, le sol élastique non plus, je pense pas que ce soit. Non, mais par exemple, il y a des activités qui ont on va parler de du ski de randonnée, par exemple, en montagne. C'est quelque chose, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis à essayer en montagne quand les stations de ski étaient fermées, et qui donnent l'impression d'être quand même assez accessible à tout le monde, et finalement pas très dangereux. Monter sur une paire de skis et puis se balader, bah pour autant, pour moi, c'est beaucoup plus dangereux, ça, parce qu'il y a l'élément naturel qu'on maîtrise pas, les avalanches. Oui. Il y a tout un tas de facteurs extérieurs liés à l'environnement qu'on maîtrise pas. Nous, ça se passe sous la mer, mais disons qu'on met en place une telle sécurité que je considère que l'apnée est moins extrême que certaines activités qui peuvent paraître moins extrêmes aux yeux du grand public.
Et puis, il y a un encadrement, et on va y revenir. Vous êtes vraiment vous êtes entouré. Il y a une sorte de petit cocon. Vous parlez de la tribu. La tribu que vous avez rencontrée très jeune, finalement, ça aussi, on va raconter la découverte de l'apnée, parce qu'on se dirige pas forcément comme ça, de façon anodine, vers ce sport. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça passionnant. Nature aquatique, Guillaume Néry, chez Artaud, notre champion français raconte aussi son rapport à la mer, aux éléments. On est ravis de vous accueillir, Guillaume. C'est pas le cas de tout le monde autour de cette table, malheureusement. Il y a Morgane Cadignan. Ouais. Elle ne vous aime pas, vous savez.
Aïe, j'ai peur.
Non, Guillaume Néry, je vous aime pas, on se connaît pas, mais on fait un petit peu partie de la même famille. Moi, tel que vous me voyez l'été dernier, à la piscine de l'hôtel. J'ai quand même fait ma longueur sans respirer. Et ouais, messieurs, dames, ne soyez pas énervés. 40 secondes sous l'eau sans reprendre mon souffle. Passez à l'occasion, Guillaume, on se fera un petit chifoumi sous la surface. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai joué à pierre, feuille, ciseaux, en faisant de la plongée, ça s'est très mal passé. Apparemment, les signes veulent dire des trucs différents quand t'es sous l'eau. Bref, je me suis fait remonter en urgence dans un caisson oxygène, j'ai pas compris. Je me suis dit, oula, ça déconne pas au Mexique, hein, quand c'est la feuille qui recouvre la pierre, ils sont vénères. Donc bref, Guillaume, on se comprend. Moi aussi, j'aime bien passer du temps sous l'eau. Déjà, parce que sous l'eau, on n'entend pas Jérémy Crédville chanter. Et ça, vous verrez tout à l'heure que c'est un luxe. Non, mais c'est un luxe dont les espadons se rendent pas compte. Sous l'océan, les gars, il n'y a pas France Inter. Il y a des marsouins qui connaissent pas Augustin Trapenard. En même temps, les questions d'Augustin sous l'eau, putain. Bon, et vous qui êtes un poisson, l'eau, ça a son importance avec la sardine en train de crever. Mais il est con, quoi. Donc, franchement, Guillaume, vous découvrez l'apnée en 96 quand un ami vous met au défi de retenir votre respiration le plus longtemps possible. Et à ce moment-là, vous gagnez puisque par fierté, il décède. Non, pas du tout. Vous gagnez simplement et vous gagnez juste. Et après, ça s'enchaîne. En 2002, vous devenez le plus jeune recordman d'apnée en allant jusqu'à 87 mètres. Mais on se rend compte de quoi on parle. 87 mètres, les gars. Moi, mes oreilles se bouchent. Je vous jure, quand je prends le métro, un peu trop profond. 87 mètres, quoi. C'est Leïla sur des escarpins. C'est quand même, c'est impressionnant. Et tout à l'heure, on parlait de 119 mètres. Mais même moi, sur Terre, quand je demande mon chemin et qu'on me dit ça à droite à 100 mètres, je prends un Uber. Mais, le faire sans oxygène avec des palmes à la verticale, mais non, je reste sur le bateau, j'attends l'ascenseur. En fait, c'est ça qui est fascinant avec ce genre de sport, c'est que tu peux jamais répondre à la question pourquoi tu le fais. Il y a un truc d'appel, il y a un truc juste de répondre à un appel, il y a un truc dans l'apnée, dans l'escalade en free solo, c'est-à-dire sans attache, où à un moment donné, tu te dis que si quelqu'un veut aller dans un élément qui n'est pas le sien, sans prendre des objets qui tombent sous le bon sens, comme un baudrier ou de l'oxygène, et bah, c'est son problème. C'est comme si je vous disais, alors moi, mon truc, c'est le saut élastique, mais sans élastique. Franchement, c'est génial. Je sais pas qu'il faut avoir des bonnes chevilles. Puis après, tu regardes, t'observes, tu t'intéresses et tu comprends qu'il y a un côté hyper artistique dans le fait de repousser ses limites parce que ça te prouve que ça devient possible, surtout quand c'est pratiqué dans un élément fragile et merveilleux qu'il faut protéger à tout prix, l'océan. Oui, je suis la version vivante du compte Instagram de Marion Cotillard. D'ailleurs, on arrive en mai, c'est complètement la saison des asperges blanches, pensez-y. Mais encore une fois, Guillaume, je pense qu'on se comprend, on est du même milieu, j'ai mon paddy. Donc moi je suis là, je fais des blagues, mais bien équipé avec deux bouteilles de secours, trois moniteurs autour de moi. Moi, je descends à 22 mètres. Hein. Donc, vous, moi, c'est kiff kiff. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai fait de la plongée sous-marine, ça s'est pas super bien passé. C'était au Nicaragua, j'ai croisé un requin pèlerin dont je ne connaissais pas la taille exacte, mais le pèlerin dans la biologie marine, le terme, c'est ah bah ouais, c'est des beaux bébés quand même. Et on m'a juste dit t'inquiète pas, ils sont végétariens, aucun risque. Faut juste pas qu'ils confondent ta main avec une algue. Yes! me voici rassurée. Et messieurs, dames, je me suis vue en maillot de bain. Je peux être confondue avec une algue très, très, très facilement. Alors finalement, pour la prochaine projet, Guillaume, vous partez devant. Moi, je reste là pour être sûr que personne ne vole le bateau. Tu ris trop fort sur cette blague.
Est-ce qu'on a
qui sera le 6 mai à Nice
sur la surface.
Sur la surface, quand on parle de créatures subaquatiques.
Le kraken.
Il n'y a aucun rapport avec ce que vient de dire Morgane, mais vous parlez d'une rencontre étonnante, d'une fascination pour les cachalots.
Quelle belle transition.
Il n'y avait pas de transition vraiment.
J'aurais arrêté le sucre.
Non, il y a une vraie fascination pour les cachalots, vous le racontez, et vous les rencontrez en fait sous l'eau.
Oui, alors pas tous les jours.
Il y en a qui s'appelle Bernard.
Et oui, les cachalots sont les mammifères marins qui vont ceux qui vont le plus profond au monde. C'est une grande mythologie autour des cachalots, ouais. Hein, Moby Dick. Et pour nous, les apnéistes, c'est un peu les modèles. Ils descendent jusqu'à 2000 mètres, ils peuvent tenir une heure et demie en apnée. Donc nous, à côté, avec nos 7 minutes, on fait pas le poids.
Je savais pas que c'était un animal de fascination comme ça pour les apnéistes en général.
Ouais, tous les mammifères marins en général, c'est un peu des modèles. Quand on met une monopalme pour descendre, c'est un peu du mimétisme. On regarde comment font ceux qui vont profond et puis on se dit on va faire pareil. Et on essaie de faire pareil.
C'est ça, il ralentit son métabolisme, vous l'expliquez, il redistribue les volumes sanguins, donc c'est hyper, hyper technique. Alors vous parlez de cette monopalme dès le départ, vous commencez pas avec une monopalme, vous commencez avec deux palmes.
Comme tout le monde, hein. Tout le monde qui va un jour en mer prend deux petites palmes classiques.
Et... Ouais. Mais quand vous commencez à plonger vraiment, vous lâchez rapidement ces deux palmes pour la monopalme, considérant quoi ? Que c'est plus harmonieux avec votre mouvement, vous parvenez davantage à descendre ?
En fait, quand on va sous l'eau et qu'on met des palmes, même les enfants, quand ils vont dans une piscine, assez naturellement, ils se mettent à faire cette espèce de mouvement d'ondulation, ils jouent à faire la sirène. Et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est plus économique, on va plus vite et on dépense moins d'énergie. Et d'accord. Donc c'est tout l'intérêt de toute l'idée de l'apnée, c'est arriver à un endroit et qu'on dépense le moins d'énergie pour réaliser cette distance ou cette profondeur. Et donc le jour où je mets une monopalme, je me rends compte que je me retrouve aux mêmes profondeurs que là où j'allais la veille, mais beaucoup plus facilement. Ouais. Et évidemment, je vais plus profond ensuite.
Vous n'avez jamais tenté les quatre comme une tortue.
Vous parlez de cette perfection, vous parlez de ce mouvement, du ressenti du mouvement aussi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte dans une bonne descente. C'est quoi une bonne plongée, en fait ?
Une bonne plongée, c'est une plongée qui va totalement à l'inverse de l'idée reçue. Donc, quand j'explique que je veux en profondeur, la référence qu'on a quand on ne connaît pas du tout, c'est les oreilles qui font mal à 1 ou 2 mètres. Et puis, c'est cette espèce d'idée qu'on a envie de respirer très vite et donc qu'on suffoque. Et donc, on descend un peu en force. On se dit, tiens, il y a le sable à 5-6 mètres. On va aller ramasser un coquillage. On y va. On a mal aux oreilles. On force. Et puis, on remonte dans un espèce de mode survie. Ben, nous, c'est tout l'inverse. C'est une bonne plongée. Une plongée où on va chercher à être... Déjà, on voit pas le sable. Ouais, sinon,
on est trop loin.
Non, mais déjà, on apprend on respire, on calme le corps, l'esprit. On essaie de se mettre dans une espèce d'état d'hibernation, d'être au repos, pour consommer le moins d'énergie possible. Et puis, quand on commence à palmer, à descendre, il y a absolument pas cette idée d'aller contre quelque chose. Ouais. On n'est pas dans une lutte, dans une conquête. On recherche, un relâchement total du corps et de l'esprit, et la plongée se fait de manière très naturelle. Et quand la pression arrive, on commence à ressentir le froid des grandes profondeurs, on se laisse totalement aller. On essaie de rentrer dans une logique d'acceptation. Et quand on est dans cette logique-là, c'est extrêmement agréable. Et il n'y a aucune douleur.
Mais c'est pas dangereux ?
Non, c'est pas dangereux parce que on progresse très lentement. C'est-à-dire que je me retrouve pas du jour au lendemain à 100 mètres. Ça fait 25 ans que je pratique. On progresse mètre par mètre quasiment, entraînement après entraînement.
Et cette ivresse-là des profondeurs, elle est pas dangereuse ?
Alors, l'ivresse des profondeurs...
Tout ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, ça a l'air beaucoup mieux que sur Terre, en fait. On a l'air quand même beaucoup plus heureux sous l'eau que sur Terre.
Ah, mais c'est formidable d'aller sous l'eau. Et pour le coup, il n'y a pas forcément besoin d'aller à 100 mètres, juste en allant à quelques mètres. Et j'essaie de le décrire dans le livre, justement, quand on approche de la fin du livre, où au début, c'est sûr qu'on est très dans les profondeurs, et puis ensuite... J'essaie de partager la magie d'un simple bain sous la mer à quelques mètres de profondeur où on est bien, on a vraiment pas envie de respirer, on se retrouve libéré de la gravité.
Vous marchez sous l'eau.
On peut marcher, on peut rester en suspension. Et puis on n'a pas envie de respirer, contrairement à l'idée reçue.
Morgane.
Mais la narcose, l'ivresse des profondeurs, vous la sentez quand elle arrive et vous arrivez à lutter, enfin à être en conscience que vous commencez à être un peu...
Alors l'ivresse des profondeurs, effectivement...
C'est le nom du film, Narcose, il y a un film qu'on peut trouver.
Tout à fait.
Une réponse sur l'ivresse qu'elle voudrait que sur, sur la maladie.
Non, l'ivresse des profondeurs, effectivement, c'est un phénomène auquel on est confronté quand on va très profond. C'est-à-dire quand on va à 20 mètres, on n'a pas ce risque-là. Mais à 100 mètres ou plus... on peut rencontrer cette mécanique-là qui n'est pas la même chose que ce qui est montré dans Le Grand Bleu. Si on se rappelle du film Le Grand Bleu, Jean-Marc Barr, dans les dernières secondes du film... Ah.
Forcément.
Forcément. Il hésite à remonter et puis il est pris par cette espèce d'ivresse, par l'appel de ces sirènes, des dauphins, et il ne remonte pas. Non, nous, c'est pas ça. La narcose nous accompagne pendant toute la remontée et c'est une sensation qui est pas très agréable pour être honnête, qui nous questionne pas sur le fait de rester en bas, qui va plutôt avoir une tendance à accélérer nos pensées. Il y a quelque chose qui peut être parfois anxiogène dans cette narcose. J'ai appris à la gérer, j'ai appris à garder une certaine distance. Mais non, globalement, c'est vraiment pas un truc qu'on va chercher.
Okay. C'est une pratique qui vous demande d'être très centré avec vous-même, mais avec les éléments aussi. Vous racontez qu'avant de plonger, vous êtes en mesure de vous fabriquer votre petite bulle, mais qu'avant de plonger, vous êtes au contact de l'eau. Parce que y a un rapport quasiment charnel, en fait, avec l'eau, dans votre façon d'en parler.
Oui, l'eau, c'est un élément qui est enveloppant. C'est un élément qui amène des bienfaits sur le corps et sur la psyché qui sont extraordinaires.
Des bienfaits sur le corps, sur la psyché. C'est un peu le synonyme d'une forme de tornade de plaisir. Et autour de cette table, une tornade de plaisir.
Oh la vache,
la tornade de plaisir. On a touché le fond,
non,
ouais, c'est Alexandre Cominec.
Non, tu es ma tornade de plaisir, vrai, Alexandre, je dois le dire.
Merci Leïla.
Elle a dit ça à personne.
Je suis mon coming out. Personne.
Bah, merci, les gars, pour cette introduction. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Déjà, je vais vous dire un truc, ça faisait un petit moment et ça fait du bien. Ça fait du bien de revoir vos tronches de perdants. Non mais dommage, franchement, 42%. Vous y étiez presque, quoi, presque. Et franchement, ouais. Et puis voilà, bon bah l'extrême droite, que vous dire, c'est pas pour tout de suite. Hein. Tout le monde n'a pas la chance d'être suisse. En même temps, à 3 800 euros le SMIC, forcément, il y a sélection à l'entrée de la boîte. Hein. A priori, le carré VIP, t'y arrives pas en radeau. Sans transition, j'ai récemment fait la découverte d'une étude scientifique qui expliquerait pas mal de choses en termes de comportement chez les humains. Alors, cette découverte, messieurs, oui, je vais m'adresser aux mecs particulièrement, surtout à Jérémy.
Bonsoir.
Car Guillaume, je ne vous connais pas, et Daniel, Daniel, c'est Daniel. Donc, cette découverte, d'après ses recherches scientifiques, concerne quelque chose de bien plus présent dans nos gènes. Mmh. Messieurs, tenez-vous prêts, l'infidélité serait héréditaire.
Tiens, voilà.
Hein, on est d'accord. Putain, meilleure nouvelle de ma vie.
Bien sûr.
Oh là, mais vraiment, ça explique pourquoi tous les matins je suis pas en forme, j'ai des cernes et la meuf à côté, c'est pas la bonne. C'est héréditaire. C'est héréditaire, bien sûr. Donc messieurs, repensez à ces fois où vous vous êtes senti comme une merde, ces fois où vous disiez que vous la méritiez pas, que vous êtes un putain d'égoïste. J'aimerais que vous repensiez, hein, à tous ces moments où vous l'avez trompé, ces moments où en jouissant vous vous êtes dit oh putain j'aurais pas dû. Eh bien, j'aimerais que vous effaciez tout ça de votre tête, car vous n'êtes pas une merde. Répétez-le après moi, c'est pas ma faute, c'est la faute à papa. Voilà. Dès aujourd'hui, si vous trompez votre femme et qu'elle vous dit t'es vraiment qu'un gros connard, répondez-lui fièrement. T'as pas honte de te moquer de ma défaillance génétique. Hyper facile de se moquer des handicapés. Tu vois ce que tu fais là? C'est de l'infidélophobie. Oui, tout à fait. Non, j'ai pas peur des mots, non. Les scientifiques, mesdames et messieurs, ont réussi à identifier un gène spécifique, le gène AVPR1A. Et c'est lui le responsable de l'infidélité. Ce gène en question permet la production de l'arginine vasopressine. C'est une hormone qui influe sur le comportement social et qui impacte l'attachement entre les partenaires sexuels. C'est-à-dire que sans que vous le vouliez, ce gène produit une hormone qui a l'effet d'un petit cocktail du love. Hein, donc arrêtez de vous sentir coupable. Il faut tout simplement l'accepter. Accepter le fait que vous êtes différent, que vous avez un gène en plus, que vous êtes en fait un trisomique du cul. Alors, attention les chieuses, les barbus et autres évolutions de Pokémon féministe en tout genre. Mais les femmes sont touchées aussi par ce cas.
Hein,
selon les chercheurs, si l'adultère serait héréditaire pour 63% des hommes, 40% des femmes infidèles le seraient aussi à cause de leur patrimoine génétique. 60-40, 20% en moins pour les femmes. Ouf, ça va, ça concorde avec les salaires et les tâches ménagères. Aujourd'hui, on vit vraiment dans une époque où tout est sujet à trouver des prétextes génétiques pour justifier un comportement de fils de pute. Hein? Non mais t'as un gosse casse-couille, non mais c'est parce qu'il est au potentiel. Tu chiales tout le temps, non mais parce que je suis hypersensible. Ta meuf est dingue, non mais il faut comprendre, elle est bipolaire. Ton patron veut pas t'augmenter, c'est Nagui. Bref, là je suis conscient que je parle de trouble, mais l'adultère, lui, c'est pas un trouble, hein. Ça relève de la morale. Alors si maintenant on peut camoufler notre immoralité en facteur génétique, mais ça va être merveilleux, hein. Oui, j'ai fait de l'évasion fiscale. Oui, mais j'y peux rien. C'est dans mes gènes. Voilà, c'est dans ma poche aussi, mais voilà. Mais c'est avant tout dans mes gènes. Est-ce que vous croyez que ça me fait plaisir, moi, de devoir prendre des jets, hein, aller dans les îles Caïmans? C'est fatigant. J'ai un bilan carbone terrible. Est-ce que vous pensez que je dors bien? Franchement, oui, terriblement. Hein, j'ai pu m'acheter 8 matelas à mémoire de forme en peau de girafe. Girafe parce que j'avais du rhino noir pour les canapés du salon. Et c'est pas le sujet. Oui, je tue des animaux en voie d'extinction pour le plaisir. Mais c'est pas le sujet. Je vous parle de mon génome. Respectez ma différence. Enfin voilà. Les amis, je crois qu'il n'y a pas besoin d'être scientifique pour dire que cette étude a dû être faite par un sacré bâtard. Et c'est sûrement à cause de son père.
Oh, il m'a fatigué. Alors, Alexandre, le jeudi et vendredi au Beau Saint-Martin.
Exactement.
Et voilà,
c'est fait.
C'est la génétique. Guillaume Néry, Nature Aquatique aux éditions Artaud. On va s'intéresser à votre bande originale et aux musiques que vous écoutiez. On commence par l'année 82.
Le concert.
La version live Wembley en 86. On vous adore, Guillaume, pour ce choix musical. De toute façon, Queen,
On ne peut que vous aimer. Pourquoi avoir choisi cette musique pour illustrer 82, qui est l'année de votre naissance?
Alors, bah parce que Queen était à ce moment-là au top de, voilà, de sa renommée. Et c'est le premier, on va dire, c'est mon premier coup de foot musical. J'étais encore en primaire. Un copain m'a fait découvrir ça. Et j'ai écouté tous les albums. Et le jour où j'ai écouté ce Wembley, ce concert, en plus, il a fait un 11 juillet, donc le jour de mon anniversaire,
ouais,
en 86. Bah, c'est voilà, ça m'a plus jamais quitté. Je connais chaque note, chaque moment de ce concert.
On est donc en 82, année de votre naissance. Vous êtes né à Nice, Guillaume. Vous parlez un petit peu de vos parents dans le livre. Votre mère était prof de maths, votre père technicien en médecine nucléaire. Vous êtes fils unique. Mais moi, c'est justement la génétique, non pas pour justifier l'infidélité, cher Alexandre Cominec, qui m'intéresse, mais le lien que vous établissez avec la plongée dans le bouquin, où vous racontez comment, par des générations bien, bien antérieures, le lien avec l'eau, avec les profondeurs et avec le défi est peut-être inscrit dans l'histoire familiale.
Ah oui, alors ça, c'est une hypothèse.
Ouais, mais, non, mais c'est intéressant de retracer ça comme ça.
J'ai appris en allant interroger alors c'est qui, c'est mon arrière, oh, je sais plus, c'est mon grand-oncle, voilà. C'est l'oncle de ma mère
du côté d'Oran,
qui est espagnol, ouais. qui habite à Angers maintenant et qui me parle à un moment donné juste après la mort de mon grand-père. J'avais besoin de retourner et de connaître un peu plus sur ma famille pied noir de Oran, d'Espagne. Et qui m'apprend qu'il y a une espèce de secret de famille qui s'est pas trop dit, comme quoi mon arrière-arrière-arrière-grand-père...
C'était un cachalot. C'était...
c'était un...
Non,
un... c'était un enfant chinois qui a perdu ses parents lors d'une traversée vers les Philippines et qu'il a été recueilli par l'arrière-arrière, je sais plus à quel niveau d'arrière, mais en tout cas qui a été recueilli et qui a été la première génération à s'installer en Algérie dans les années 1870. Et donc j'essayais de me figurer ce que ça pouvait être, ce traumatisme de la traversée en jonque de la Chine aux Philippines. Et puis voilà, c'est une hypothèse romantique, on va dire, qui expliquerait ce... Oui, c'est incroyable, cette espèce de lien avec la mer que j'essaye, moi, de conjurer à ma manière.
On passe à l'année 96.
Quatre accords, capot 2. Wonderwall.
Oasis, pourquoi cette musique, Guillaume ?
Oh bah je crois que toute ma génération, c'est une espèce d'hymne de cette époque, fin des années 90, début des années 2000. J'ai l'impression que cette musique était là. Je l'écoutais pas particulièrement, mais elle accompagnait un peu mon entrée dans l'âge adulte, ma découverte de la plongée en apnée. Et je pense que c'est pour cette génération qui va avoir 40 ans cette année. C'est une musique qui rappelle les 12 années.
Première tentative d'apnée, Morgan l'a évoqué tout à l'heure. Retour du tennis, je crois, dans le bouquin vous le racontez, avec un copain, et vous vous mettez au défi de ne pas respirer.
Oui, un défi d'adolescent comme les autres. On parlait de Chifumi. J'en ai plus. Un jour c'était Chifumi, puis le lendemain dans le bus c'était tiens, on arrête de respirer, puis on voit qui tient le plus longtemps.
Alors on précise que c'est pas du tout une pratique qu'on encourage dans les cours d'école.
Pas du tout.
En tout cas, votre découverte se fait comme ça. Il s'avère que vous perdez. À ce concours.
Je perds, mais derrière, je sais pas, il y a quelque chose de fascinant dans cette idée que le corps peut ne pas respirer, et puis je me dis bon, la prochaine fois je vais faire mieux, et puis je découvre que je suis capable de tenir de plus en plus longtemps. Au début c'était même pas dans l'eau, c'était dans mon lit pour essayer
tout nu,
c'est ça.
Important.
Tout nu parce que j'avais 14 ans et j'étais prêt à tout pour progresser, et puis j'avais lu dans les manuels de sciences nat que la peau est respirée, donc je me suis dit si je suis tout nu, ça va permettre de grappiller quelques secondes.
Non, parce que je comprenais pas, j'étais tout nu parce que j'avais 14 ans, je voyais pas le rapport. 14 ans tout nu.
Et je vous ai vu dans une vidéo en ligne, dans les secondes qui précèdent le moment où vous allez plonger, finalement on pourrait se dire retenir son souffle, c'est juste inspirer fort et tout bloquer, mais en fait il y a quelque chose d'autre. Il y a d'ailleurs, c'est très artistique artistique, en fait, dans la façon dont on vous voit comme ça,
ah,
avec la bouche.
Artistique.
Ouais,
ah ouais.
Bah si, je trouve ça artistique parce que tout d'un coup, il y a un jeu avec la bouche, avec la façon de moduler. Comment est-ce que vous pourriez le décrire? Parce que...
En fait, c'est une manœuvre qu'on appelle la carpe. Donc, c'est une technique qui permet d'emmagasiner plus d'air. Alors, ça aussi, à ne surtout pas faire. Hein, c'est vraiment réservé, voilà.
Aux poissons.
Et donc, c'est difficile à la radio de montrer à quoi ça ressemble, mais en tout cas, on a l'impression de faire des petites goulées d'air supplémentaires. Ça nous permet d'emmagasiner.
Et on se dit que c'est infini. J'ai l'impression que quand je vous vois faire ça, à ce moment-là, je me dis, il ne va jamais s'arrêter, il va encore prendre plus d'air.
Ouais,
plus
on peut
d'air,
prendre un litre, voire plus. Mais quand on n'a pas les poumons adaptés, habitués, on peut se blesser. Donc, ne surtout pas
ne
faire.
Pas le faire, d'accord. Absolument. On passe à l'année 2002. Push me and then just hurt me till I get my satisfaction. Est-ce que vous écoutez de la musique beaucoup dans la vie? Dans le bouquin, il n'y a pas de musique. Il n'y a aucune référence musicale
non,
dans le livre.
Non, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique, beaucoup de la musique classique, en fait, ces derniers temps, qui m'accompagne quand je travaille, que ce peut être quand j'écris aussi. Mais oui, j'ai une culture musicale faible, mais éclectique. Mm-hmm. Et là, j'ai choisi ce morceau parce que c'était une espèce d'époque, l'entrée dans la vie étudiante, dans laquelle j'ai mis un pas, mais que la logique de l'entraînement et ma volonté de vouloir progresser m'a empêché de trop côtoyer aussi. Mmh. Donc je me rappelle cette musique, c'était quand les quelques fois où j'allais vraiment faire la fête. C'était la musique électro à l'époque ouais. qu'il y avait.
Les drogues dures et tout ça, ouais. Ça,
ouais,
c'était l'époque.
Ouais.
Racontez pas tout. Dites pas tout.
mais oui, il y avait quand même une certaine. J'étais un petit peu en marge de la vie étudiante avec les fiestas tous les jeudis, tous les vendredis, tous les ouais. samedis. Voilà, moi je plongeais le week-end, je m'entraînais et donc. Mais j'étais très heureux comme ça. Hein. Mmh. Et donc du coup les la fête à 20 ans, c'était avec beaucoup de parcimonie.
Ouais, c'est ça. On est en 2002. En effet, vous avez 20 ans. Vous, éventuellement, vous avez dit que tout à l'heure, le sport tel que la plongée n'était pas forcément une grosse pratique professionnelle. Est-ce qu'on envisage à cet âge-là de gagner sa vie avec la plongée?
Alors, effectivement, c'était en tout cas à l'époque extrêmement marginal. Donc moi, j'avais ce modèle, Loïc Leferme, ouais. Qui lui avait réussi à en vivre. Et parce que lui, il pouvait le faire, je me disais, j'ai un exemple. Voilà, il n'y en avait pas 50 hein, à l'époque. Hein. Et donc, oui, je l'envisageais, je l'avais comme un rêve quelque part. Et j'ai essayé de poursuivre ce rêve.
Alors en 2002, votre premier record du monde tombe, 87 mètres. Vous êtes le plus jeune recordman du monde de l'histoire en apnée à plonger à cette profondeur-là. C'était en Afghanistan. Alors on...
Non.
Ah bon?
Oh là. Non.
Ah, c'était pas en Afghanistan.
C'était à Nice, premier record. Nice. En Afghanistan, d'accord. J'y suis allé un an plus tard.
D'accord. Et là, vous avez battu un record là-bas?
Non, pas du tout.
Mais alors, en Afghanistan, je sais pas, c'est marrant, j'aurais pas parié sur l'organisation là-bas de compétition de plongée.
Ah non, c'était pas une compétition, c'était une expédition. En gros, il y avait une expédition organisée avec l'UNESCO. C'était 2 ans après. La fin de la guerre, en tout cas, c'était un moment de pause dans cette longue guerre qui se déroule là-bas. Et donc, une expédition avec des journalistes, des scientifiques pour la reconnaissance de tout ce patrimoine afghan, d'accord, dans ce moment de calme. Et l'expédition passait par des lacs en altitude, des lacs sacrés, des lacs réputés sans fond. Et avec Loïc Leferme, nous sommes partis au cours de cette expédition pour aller plonger là-bas.
On passe à l'année 2005. Je me demandais quand est-ce que Björk allait arriver dans votre bande originale, parce que tout d'un coup on est dans la sensation que vous avez décrite tout à l'heure, sous l'eau.
Björk, ça a été un coup de foudre. Ouais. Un coup de foudre parce que à la fois sa musique d'une puissance créative incroyable, à la fois les paroles, ces paroles, on ressent la puissance de la nature, la puissance de l'élément, son lien, qui pour moi transparaît à chaque note, à chacune de ses vocalises. Et c'est une musique qui m'a toujours accompagné dans mes aventures sous-marines.
On est donc en 2005 et vous passez la barre mythique des 100 mètres. Vous le dites dans le bouquin, c'est Jacques Mayol en fait qui a été le détenteur de ce record-là, de ces 100 mètres.
Ça a été le premier.
Ça a été le premier. On estimait que l'homme ne pouvait pas aller plus bas que ça? Comment est-ce que vous expliquez que ça soit possible, qu'on aille plus bas? À quoi ça tient?
C'était assez passionnant. À l'époque, il y a 40-50 ans, les médecins scientifiques découvraient qu'il y avait des fous furieux qui plongeaient sous la mer en apnée. Et donc essayer d'élaborer des calculs pour voir est-ce qu'il y a une limite. Et puis ces calculs ignoraient finalement des adaptations du corps humain. Mmh. Et donc les premières limites, au début ça avait été 50 mètres. Et puis Jacques Mayol et Enzo Majorca, le Enzo qui est joué par Jean Reno dans Le Grand Bleu, les limites ont été dépassées. Et puis 10-20 ans plus tard, quand on s'approchait des 100 mètres, ces mêmes docteurs médecins ont dit « Ah ben non, là c'est vraiment, on a refait des calculs, c'est pas possible là au-delà de 100 mètres ». Et parce qu'il y a eu ces pionniers qui sont allés au-delà, on a voulu savoir comment c'était possible. On a découvert des choses incroyables sur la capacité d'adaptation du corps humain.
Vous pensez qu'on peut descendre jusqu'à combien ?
C'est la grande question, c'est ce rapport avec la limite. Je peux pas répondre parce que les records.
Faites un petit effort sur le spécialiste. Hein, quand même.
Disons que je pense qu'on pourra toujours avec le temps très long. Je vois pas ce qui peut nous empêcher à chaque fois d'aller un petit mètre plus bas. Ouais. Par contre, ça va prendre de plus en plus de temps. Quand on voit toutes les courbes de records, de performances, quand un sport s'allonge et qu'on a de plus en plus de longévité dans le sport, on voit que les records se battent de plus en plus lentement. Quelle est la limite? J'en sais rien. C'est sûr que c'est difficile aujourd'hui de dire qu'on ira à 1000 mètres. Ouais, non, ouais. C'est sûr que non. Et encore, peut-être dans plusieurs dizaines de milliers d'années, si on est encore là.
Dans votre bouquin, Guillaume Néry, Nature aquatique, vous parlez aussi de ce que vous observez, de la biodiversité. Vous êtes niçois, vous parlez de la vallée du Var aussi, qui a été un haut lieu de biodiversité. Et vous constatez que la nature, on la pille, la mer, on la salit, on la souille. On a voulu parler de la mer, des océans et demander à nouveau à Claire Nouvian de venir dans cette émission. Bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes toujours la bienvenue dans la bande originale. Vous
Merci.
Êtes la fondatrice de l'association Bloom pour la protection des océans, lauréate du prix Goldman pour l'environnement. Avec Bloom, justement, vous menez beaucoup de combats, et c'est justement de ces combats-là dont on a envie de parler. La dernière fois que vous étiez venu, c'était avec Cyril Dion. On avait eu une scène assez exceptionnelle au Parlement européen pour voir comment est-ce qu'on pouvait empêcher toutes ces affaires de surpêche, notamment. On parle de cette campagne présidentielle aussi, on est à 4-5 jours après le second tour. L'écologie, le réchauffement climatique, tous ces sujets si importants, ont-ils été les grands oubliés de cette campagne, Claire Nouvian?
Oui, ils ont été les grands oubliés et ça n'a échappé à personne que notre nouveau président, qui n'est pas si nouveau, nous a dit que le vote l'obligeait en matière écologique, et donc on l'attend au tournant. Et donc je suis face à notre grand apnéiste mondial. Et alors je vais vous dire, moi aussi je fais de l'apnée au Parlement européen.
Et en fait, vous voyant, je me dis,
mais c'est exactement ce qu'on fait. Alors il faut à peu près peut-être le même niveau d'excitation en miroir de ce que vous avez en calme. Vous voyez, parce qu'il faut quand même rentrer dans un environnement qui est tellement opaque et qui est assez abyssal, ce Parlement européen. Et on a un vote le 3 mai, vous voyez. Vous parlez de climat, d'impact des pêches destructrices sur l'environnement. On a un vote le 3 mai du Parlement européen qui doit décider si oui ou non les aires marines qu'on appelle protégées seront vraiment protégées. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on vit dans ce délire sémantique où on a dit et on fait croire aux gens qu'on protège une grande partie de notre océan. Monsieur Macron avait dit on protège 30% de notre territoire marin. Mais en fait, les endroits où on n'a pas le droit de pêcher, avec des gros engins qui traînent des chaînes métalliques, des panneaux métalliques, des filets lestés, c'est par exemple autour de nous, là, en France hexagonale, 0,005% qui sont vraiment protégés.
Oui, ce sont des coquilles vides.
Mais des coquilles vides. Et en anglais, on appelle ça des paper parks, c'est-à-dire des parcs marins qui ne sont que du papier, c'est-à-dire qu'il y a des tracés sur des cartes, en effet, des pointillés qui disent aires marines protégées, et en fait, pas du tout. Et donc, on demande au Parlement européen de voter de façon évidemment très claire. Je veux dire, il s'agit d'arrêter le mensonge, il s'agit de mettre en œuvre les objectifs de développement durable. Il s'agit aussi de simplement tenir promesse. Donc, on met un petit peu la pression aux élus de La République En Marche, évidemment, notamment parce que Stéphane Séjourné, par exemple, le chef des marcheurs au Parlement, est devenu aussi le chef du parti qu'ils ont, c'est un groupe politique qu'ils ont formé, qui regroupe tous les députés de centre-droit. Mais quand on est chef d'un groupe politique au Parlement, on peut donner une consigne de vote à tous les députés, d'accord, pas seulement français, mais aussi les Suédois, les Croates, les Espagnols, les Portugais, etc.
Donc qu'est-ce que ça coûterait de le faire ?
Ah, ça coûte de dire au lobby de la pêche industrielle que non, il y a des endroits où ils vont pas pouvoir pêcher. Et c'est ok, en fait, vous savez. En fait, ils peuvent pêcher partout dans l'océan. Il y a peut-être un moment où il faut simplement écouter les chercheurs avec les climatologues du GIEC qui nous disent « alerte rouge pour la planète ». Donc on met des zones qui sont protégées parce que déjà on ne fait pas passer ces énormes engins, les chalutiers, les seineurs démersaux, la seine démersale, c'est une autre méthode de forme de chalut qui consomme énormément de gasoil. Mais qui, en plus, avec leur matériel qui passe, les engins qui sont tractés sur le fond, ils délogent du sédiment marin tout le carbone qui est naturellement stocké. C'est-à-dire qu'on a des océans qui nous rendent service gratuitement. Gratuitement. Il suffit de leur foutre un petit peu la paix pour qu'en fait, ils nous rendent service. Oui. Eh bien, nous, on fait exactement le contraire. On laisse, comme d'habitude en matière de pêche, les lobbies industriels décider à la place des représentants des citoyens. Et c'est ce régime-là, ce régime des lobbies qui doit absolument cesser pour aller vers une performance ne serait-ce que sociale. Parce qu'en fait, ces grands engins industriels, ce sont aussi ceux qui ont tué les emplois dans la pêche en France. On n'a plus de pêcheurs sur nos territoires. Les pêcheurs français du nord de la France, ils sont aujourd'hui en compétition directe avec des grands industriels de la pêche néerlandais, par exemple des seineurs démersaux. Cette seine démersale, il faut qu'on en parle. C'est un peu barbare. Je suis désolée d'arriver avec un nouveau champ sémantique que
mais prenez le temps de l'expliquer.
À la seine démersale, c'est un peu comme du chalut. Ce sont des grands engins qui sont tractés avec de la puissance motrice. Évidemment, vous imaginez bien que avant d'attraper le premier poisson, merci la note de gasoil, parce qu'il faut en mettre du carburant dans ces machines. Et ça couvre un espace marin gigantesque. Donc ça prend tous les poissons qui s'y trouvent de façon pas du tout sélective. Oui. Ça détruit les écosystèmes et ça détruit les emplois. Donc c'est très efficace. Ils prennent tout et puis ensuite ils se disent « Ah, mais il n'y a plus de poissons, donc vous savez ce qu'ils font ?» Eh bien, ils passent au quartier maritime d'à côté. Et donc, ils sont passés de mer du Nord en Manche et maintenant, ils arrivent sur la Normandie. On demande au président Macron d'arrêter cette seine démersale, de se positionner pour les aires marines protégées et on espère bien être entendu. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi la droite européenne.
Il faut compter sur quoi
européenne.
Être entendu par quoi ? Est-ce qu'il faut une mobilisation citoyenne maintenant ? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que... Parce que ce discours-là, hélas, c'est un discours que vous tenez, qui est tenu par beaucoup d'associations depuis longtemps. Et pour autant, on constate simplement que les choses n'avancent pas beaucoup, en tout cas pas assez vite. Voilà, pas assez vite.
Ce qu'il faut, c'est, je le dis, je le redis, on n'a jamais gagné quoi que ce soit sans la mobilisation citoyenne. Parfois, des gens me disent, mais ça sert à rien, non, de signer des pétitions. À quoi ça sert de retweeter, de reposter sur Instagram? Mais ça fait toute la différence. En fait, on envoie le message que ça nous importe, en fait. Oui, tout nous importe. C'est difficile de demander aux gens de ne faire que de la conservation marine, alors qu'on a envie aussi d'avoir une transformation du transport, de l'agriculture, de tout. Mais bien sûr que l'océan compte et... je fais un petit clin d'œil à Guillaume Néry parce que si vous voulez être un petit peu notre ambassadeur sur certains combats, on serait ravis.
Ah bah alors, voilà, il y a tellement de sujets dramatiques qui se jouent au niveau des océans, des mers, des écosystèmes, que c'est un peu compliqué de faire des hiérarchies. Ouais. Mais pour autant, cette défense du vivant qui est exterminée, je pense que ça doit être mis en priorité.
Ouais.
Parce que finalement, s'il n'y a plus de vivant, bah, tous les autres combats sont vains. Mmh. Et aujourd'hui, ce qui se passe au niveau, ce qui se passe sous la surface des mers, c'est un véritable drame. Et le travail de Claire, hein, de son association et son travail au niveau parlementaire est absolument remarquable. Et voilà, il faut effectivement œuvrer tous ensemble. Mmh. On a chacun nos moyens d'agir en faisant des œuvres artistiques, en écrivant des livres. En appelant les citoyens, en mettant à leur connaissance ce qui se joue, parce que souvent on ne le connaît pas, c'est important. Et le travail des scientifiques, le travail au niveau politique, il faut combattre à tout prix ensemble.
Vous finissez votre livre d'ailleurs avec une lettre que vous adressez à l'océan, à la mer, à l'eau en fait, en disant que plutôt que d'appeler cette planète la planète Terre, ça devrait être la planète mer ou la planète océan, puisque de loin on voit cette petite tache bleue et c'est vraiment les deux tiers de notre surface qui est recouverte par l'eau. Et vous racontez ce qu'on fait subir à notre eau, à notre océan, à ingurgiter du plastique, digérer notre CO2, être lacéré, vidé de ses poissons, tuer les coraux, être réchauffé, acidifié. C'est une sorte de cri d'alarme très émouvant avec cette lettre qui conclut votre bouquin. En termes d'engagement citoyen ou en termes de notoriété, Guillaume Néry, vous, qu'est-ce que vous envisagez de faire? En quoi vous êtes actif, j'imagine, puisque vous êtes premier témoin sous l'eau? Vous voyez ce que décrit Claire, finalement?
Oui, moi j'essaie d'utiliser justement ma voix, et la proposition de Claire n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd.
Il y a peut-être moyen de faire quelque chose là, tous les deux.
Bien joué, hein. Bien vu, Claire.
Non, ben moi j'ai la chance d'avoir une voix, j'ai la chance de pouvoir être invité avec vous aujourd'hui et donc faire émerger cette parole scientifique. Moi, j'essaie de me faire l'écho du cri d'alerte des scientifiques. Souvent, on me demande, mais est-ce que vous voyez sous l'eau ce qui se passe? Oui, je vois, mais ce n'est pas suffisant, parce que le jour où tout le monde verra, je pense que ça sera trop tard. Ouais. Et parfois, c'est ça qui est compliqué, c'est que tout n'est pas forcément évident.
Ouais.
Tout ne se voit pas. Et puis des fois, il y a des trucs absolument dramatiques. Quand des fois, je vais au restaurant avec quelqu'un qui me parle être engagé dans la protection des océans, mais que dans la seconde où il faut commander, il commande un poisson où on ne sait absolument pas quelle est l'origine. Là, les bras m'en tombent, et je me dis, en fait, finalement, il y a un espace comme ça encore à parcourir, qui est grand, et il faut aller le plus vite possible. Donc oui, moi, j'essaie de prendre part à cette marche.
Merci.
Et en même temps,
Guillaume,
vous polluez pas mal avec tous les bateaux qui vous suivent. Vous êtes un facteur déclenchant.
Et merci à Claire Douvien. Merci Claire d'être venue au micro de la bande originale pour nous parler de toutes ces actions que vous menez. J'espère que voilà, la rencontre avec Guillaume donnera lieu à...
J'ai peut-être pêché un gros poisson.
Tanguy Pastureau est avec nous également. Oui. Bonjour Tanguy.
Bonjour.
De quoi on va parler dans l'heure suivante?
Je vais vous parler des écureuils et d'Emmanuel Macron, les grands spécialistes des noisettes.
Le retour de la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Jérémy Crépil, Alexandre Péminec, Daniel Morin, Tanguy Pastureau également est avec nous. Notre invité, Guillaume Néry, s'il vous plaît. Guillaume Néry qui vient nous parler à nouveau de Nature aquatique aux éditions Artaud, un bouquin passionnant où on découvre en effet votre itinéraire de champion jusqu'au moment où vous avez décidé d'arrêter la compétition telle que vous la pratiquiez avant, à savoir cette recherche du mètre supplémentaire, de cette descente qui a hélas été stoppée par un accident. Qui, encore une fois, je le précise, ça arrive rarement. Vous n'êtes pas des risque-tout. Les apnéistes ne sont pas des risque-tout. On a évoqué l'équipe qui vous encadre. Et j'ai été hyper étonnée aussi de voir que finalement, les apnéistes sont des personnes qui sont pas si jeunes. Pas si jeunes que ça. Quand vous définissez, vous présentez l'équipe, la cinquantaine, la soixantaine, le sport en général, souvent nous fait dire que passé un certain âge, ça s'arrête. Et là, pas du tout.
Il y a absolument tous les âges, ouais. C'est-à-dire que c'est pas non plus un sport réservé que à la cinquantaine, soixantaine, 70 ans,
mais ils sont encore là.
Tous les âges, et ils sont encore là. Il y a même des on parlait de Jacques Mayol tout à l'heure. Jacques Mayol a battu son dernier record du monde, il avait 57 ans.
Waouh.
Il y a une dizaine d'années, une femme qu'on appelait la reine de l'apnée, la reine des apnéistes, qui s'appelait Natalia Molchanova, dominait absolument tout. Toutes les disciplines, elle avait tous les records, elle était au sommet de sa carrière à 52 ans. Donc oui, il y a quelque chose avec l'âge qui est assez étonnant, qui fait que finalement, quand on prend de l'âge, on gagne un en expérience, et deux, le métabolisme a une tendance à ralentir naturellement, ce qui est un atout pour l'apnée, puisque le métabolisme ralentit, on consomme moins d'oxygène. Donc oui, c'est une discipline qu'on peut pratiquer à tous les âges, et on peut même commencer tardivement, Ouais. Il y a aucun problème. D'accord. On peut se découvrir un talent. On peut prendre beaucoup de plaisir. Moi, j'ai des souvenirs absolument extraordinaires quand j'enseigne des stages. Une fois d'avoir encadré une dame de 62 ans qui avait jamais mis la tête dans l'eau, qui avait assez peur. Elle accompagnait son mari avec le frein à main. Et puis au bout du troisième jour, elle s'est totalement révélée et je l'ai amenée à 20 mètres de profondeur et elle a vécu une expérience marquante, une des plus belles expériences de sa vie, m'a-t-elle dit. Et elle avait 62 ans et ça, mais je trouve ça incroyable.
Et on sent que pour vous, c'est vital. Vous parlez de l'épisode qu'on a tous traversé, à savoir le confinement, d'être cantonné à la maison, de pouvoir sortir quoi dans un petit rayon d'un kilomètre et de ne plus pouvoir aller dans l'eau. Et vous comprenez finalement, à ce moment-là, vous comprenez que vous avez besoin de ça pour vivre. Alors ça peut sembler comme ça un peu farfelu, mais vous le ressentez au plus profond de vous.
Oui, alors, voilà, le confinement, on l'a tous vécu. On a tous vécu cette espèce de privation, de voilà. Avec plus ou moins de joie. Ce qu'on a tous dû vivre, en tout cas quand on est dans des grandes métropoles, moi, Nice, c'est une ville, bah, c'est un peu cet éloignement de la nature. Oui. Et donc, j'en ai souffert comme tout le monde. Mais à un moment donné, ce qui s'est avéré comme étant quelque chose qui me dépassait, c'est cette privation de la mer. De l'immersion et je n'en avais pas vraiment autant conscience avant. Ouais. Et être 2 mois sans mettre le pied dans l'eau, ça a été une espèce de révélation. En tout cas, le moment où on a pu de nouveau y retourner, c'est comme si je découvrais une nouvelle manière encore plus puissante de ce lien avec la mer, avec l'eau.
Ouais, faire partie à nouveau de l'équipe des culs mouillés, je crois que c'est comme ça que vous les appelez dans le bouquin. J'ai eu l'image tout d'un coup sur la plage de Nice. Je vous ai tous vus. Non, je plaisante. Daniel, il est inquiet. Tout va bien, Daniel. En tout cas, toutes ces Guillaume Méry, Nature Aquatique aux éditions Artan. On va donner la parole tout de suite à Tanguy Pasturo. Tiens.
Dimanche soir, je regardais les images d'Emmanuel Macron à la télé, comme tout le monde, sauf Emmanuel Macron, parce que si elle était restée chez lui devant la télé, il n'y aurait pas eu d'image. C'est l'avantage d'être Anne Hidalgo. On peut suivre toutes les soirées électorales chez soi, hein, parce qu'à 20h, une seconde, c'est fini. Donc je regardais France 2, il y avait Laurent Delahousse et Anne-Sophie Lapix. On aurait tellement dit Ken et Barbie que je pensais voir un moment débouler un poney. Et là, alors que Macron était au Champ de Mars, en avril, quoi. Le mec est tellement disruptif. Entouré de ses proches, des ministres venus lui lécher l'anus, ce qui a fait dire à Marine Le Pen, c'est mignon, on dirait mes chats, la régie a lancé des images de la victoire de Macron en 2017. Pour comparer, quoi. Il était au pied de la pyramide du Louvre, vous vous souvenez, il faisait jeune, mais pas une ride, on aurait dit Nicole Kidman, et des joues de poupon. Ah oui, des joues rebondies. Si Perrette l'avait croisé là, elle lui aurait bloqué le bassin avec son pot au lait avant de le déshabiller en lui disant, viens là, je vais t'y faire goûter à mon beurre salé. Ah, et là, en 2022, mais Macron a les joues creusées, mais je pense que dimanche, toutes les mamies de France se sont dit en le voyant, mais est-ce qu'au moins, il pense à manger? Parce que vous savez, c'est comme ça, quand on vieillit, plus on vieillit, plus on veut nourrir les autres. Alain Duhamel à BFM TV, il jette de la paella sur ses collègues. Alors autant les jeunes n'ont pas faim parce qu'ils se droguent. Hein, Gabriel Attal, ça se voit qu'il tourne à la MDMA. Enfin, quand il regarde Macron, il a les pupilles dilatées. Bon, autant les vieux, vous allez chez eux, ils vous disent tu vas bien manger un petit truc, et ils sortent un rôti, des patates, des biscuits, une poche de 4 litres de Capri Sun, et vous avez beau crier mais madame, j'étais juste venu vous ligoter afin de tirer vos bijoux, vous finissez avec la peau du bide plus tendue qu'un petit slip sur une Kardashian. Alors en fait, j'ai une théorie à propos d'Emmanuel Macron. Voilà, qui est que s'il ne mange pas, c'est sans doute parce qu'il ne trouve pas la nourriture. L'Élysée fait 365 pièces. Je veux dire, avant de repérer le frigo, vous tombez sur 25 salles de bain. Hein, dans l'une d'elles, il y a Castex en train de se faire un soin exfoliant qui vous dit, désolé, mais statistiquement, il y avait combien de chances que tu ouvres cette porte, sérieux? Hein? Et ça m'a rappelé cet article du site Futura Science à propos des écureuils. Ces bêtes qui sautent d'arbre en arbre, comme les bûcherons qui ont ingéré trop de Red Bull. Article intitulé « Comment l'écureuil sait-il où il a caché ses noisettes ?» Ça pourrait être utile au président, ça. Pas forcément Macron, mais si un jour on est lié un roux, il pourra se projeter.
Non.
Alors, je vais vous expliquer le principe de vie de l'écureuil. L'écureuil, déjà, n'hiberne pas. Il doit donc l'été se constituer des réserves pour tenir l'hiver. On pourrait écrire une fable en partant de ça. C'est marrant que personne n'y ait pensé. Donc, après, il y a deux écoles. Les animaux qui mettent tout au même endroit. Daniel Morin, par exemple, fait ça avec son tiroir à sextoy, qui n'ouvre qu'en présence du stagiaire de troisième, après avoir fermé la porte du bureau. Son âge et son atout. Il mise sur le fait qu'il sera mort avant que le scandale éclate. Bon. Et tous ceux qui disséminent les stocks à plusieurs endroits. Bernard Arnault, par exemple. a des participations dans des dizaines de sociétés. Mais il y a aussi l'écureuil. Alors pour les distinguer, Bernard Arnault, c'est celui qui ne grignote pas de pommes de pin. Ou alors s'il le fait, c'est qu'il a accepté rendez-vous en terrain inconnu et qu'il s'est perdu 3 mois dans la forêt. Hein, et la question qu'on se pose tous, c'est comment l'écureuil, en disséminant de la bouffe partout, arrive-t-il à la retrouver? Parce qu'il peut pas utiliser de GPS à cause de ses petites griffes. Hein, c'est aussi pour ça que SFR n'a pas un seul client écureuil. Les filles du Sud qui ont de faux ongles avec des diamants dessus ont le même problème. Elles n'arrivent pas à taper sur l'écran de l'iPhone. Elles peuvent rester 4 jours au fond d'un ravin à crier au secours avec leur téléphone dans la poche du mini-short. Quoi. Et ben, figurez-vous qu'un chercheur à l'école vétérinaire de l'université de Californie, c'est comme l'université du Havre mais avec du soleil, quoi, s'est penché sur la stratégie de l'écureuil. Il s'est déguisé en fourré, comme Michel Polnareff, les a regardés faire, a constaté que l'écureuil pouvait planquer 3000 noisettes par saison. C'est énorme. Si Nutella tombe sur les stocks des écureuils, ils peuvent débiter de la pâte à tartiner sur 400 ans. Puis ils ont compris que l'écureuil, en fait, utilisait des moyens mnémotechniques pour se souvenir de l'endroit où les noisettes étaient cachées. Comme nous, on le fait pour retenir un digicode. Manuel Valls, par exemple. Le sien, c'est 4469A. Bon, bah, il fait H d'Emmanuel Macron, 44, plus ce que je serais prêt à faire à Emmanuel Macron pour qu'il me prenne dans l'équipe, 69, plus A comme amour pour Emmanuel Macron. Voilà. Donc l'écureuil, c'est pareil, sauf qu'il a plus de dignité. Mais il est capable de calculer la distance entre 2 arbres. C'est fou. Alors, 3m20, première à gauche, troisième trou dans le pin, c'est là qu'elles sont. C'est fou. Enfin, moi, j'ai mis 2 mois avant de trouver le bureau de la bande originale, quand même. Il y a 3000 bureaux dans la boîte. Hein, j'ai croisé un jour Laure Adler en larmes qui cherchait le sien depuis 1977. Et l'écureuil, bah non. 3000 noisettes cachées à 3000 endroits différents, il les trouve. Incroyable, cet animal. Les chercheurs parlent même de carte mentale de l'écureuil, comme les étudiants à Rennes avec les bars. Ils savent exactement à quel endroit sont les stocks. Donc, ce qu'un écureuil peut faire, je pense qu'un président peut le faire. Une fois dans l'Elysée, troisième gauche, première droite, on prend le couloir, les escaliers à l'étage, on ouvre la salle de bain, on dit bonjour à Castex qui se frotte. Bon. Et là, il y a la cuisine. Je veux dire, il faisait comment François Hollande? Il savait où c'était, le frigo. Bon, allez, donc Manu, remplume-toi, par pitié, quoi. Et vive les écureuils.
Tanguy Pastureau, cette mère Rognac. C'est où Rognac? Dans les Bouches-du-Rhône.
Oui.
Justement, on a évoqué tout à l'heure Guillaume Néry, le poisson, la surpêche. Côté alimentation, là, vous racontez dans le bouquin, alors, le matin, vous vous levez, vous prenez un verre d'eau chaude. Ça, c'est à plusieurs reprises, c'est clairement indiqué. À quoi ressemble votre alimentation au quotidien?
Elle est assez équilibrée. Disons que j'ai un peu tout essayé.
Tortue.
Gazouille.
La tortue du requin.
Pardon. Non, vous êtes tombé dans une bande d'idiots.
Non, mais on s'imagine.
Pardon.
On s'imagine qu'on est des ascètes complètement en marge et qu'on mange que du tofu et des graines germées. C'est pas ça, évidemment, une alimentation ultra équilibrée, mais finalement, que je plonge ou que je plonge pas, c'est à peu près la même chose, avec certains écarts. J'ai essayé plein de choses, et à un moment donné, j'ai voulu arrêter toute viande et toute source. Bah, j'étais, entre guillemets, végétarien, mais pendant 1 an. Après, j'en suis revenu en ne mettant vraiment que très rarement des protéines animales. Tout est dans la mesure, entre guillemets. Mm-hmm. Mais je m'autorise des excès, des apéros et voilà. Non, j'ai une vie complètement classique,
oui,
et normale.
Dans le film, vous buvez du vin, enfin en tout cas, on n'est pas sur un asset à 200%. Alors bien sûr, c'est pas des fêtes jusqu'à 4h du matin, j'imagine, surtout avant une compétition ou avant une plongée. Mais
pour ça, vous n'êtes jamais croisé.
C'est peut-être pour ça qu'on s'est jamais vu et c'est bien dommage. D'autres événements dans le monde de la culture, quelques questions. Une guitare du groupe Oasis vient d'être mise en vente à Paris, mais qu'a-t-elle d'unique d'après vous?
Il n'y a pas de cordes.
C'est pas celle qui
n'a jamais servi.
C'est pas celle qui avait été brisée à Rock en Seine.
C'est celle qui était prévue pour le concert qu'il devait donner en 2009 à Rock en Seine. En effet, qui est le jour de la séparation du groupe.
Oasis.
Donc là,
n'existe plus.
Voilà, absolument, ce groupe n'existe plus. Groupe qui a bercé notre adolescence, qui est un peu une sorte de signal pour les quarantenaires. En effet. Ouais. Est-ce que vous avez un tempérament de fan, Guillaume Néry?
Je l'ai eu.
Ouais.
Énormément.
Ça peut vous mener à faire quoi?
Je me rappelle quand j'avais 8, 9 ans, 10 ans. Bon, après, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais j'avais un poster d'Eric Cantona, taille.
XXL
à la bonne taille. J'ai l'impression d'avoir Cantona dans ma chambre, quoi, par exemple.
Et alors?
Ça s'arrêtait là.
Vous lisez aussi beaucoup. Il y a beaucoup de références à des bouquins dans votre livre, à des traités scientifiques, mais aussi cette envie de reconnecter avec le temps et de se dire pourquoi pas poursuivre la lecture de Proust.
Oui.
Vous ça occupe une place importante aussi dans votre vie, la lecture?
J'ai toujours un bouquin sur moi. J'essaie de lire tous les jours. Enfin, non, je lis tous les jours, mais j'aimerais avoir tellement beaucoup plus de temps pour lire. Alors voilà, il y a des moments où c'est possible, des moments où c'est pas possible, mais pour moi c'est une nourriture fondamentale, le temps de la lecture. Et c'est un peu mon grand défi là, c'est d'arriver à avoir entre 1 heure et 2 heures tous les jours.
Mais
où
qu'est-ce
je peux
que
lire.
Vous aimez lire? Parce que là il y a beaucoup de choses, des choses passionnantes où on apprend qu'en effet l'homme est un plongeur depuis très très longtemps, qu'il y a eu des chasseurs plongeurs en fait, qu'on a cherché des crustacés très très loin, que la plongée c'est pas tout nouveau. Donc il y a plein de données scientifiques dans le bouquin.
Oui. À la fois des livres scientifiques, mais surtout quand même beaucoup de littérature, que ce soit des classiques ou de la littérature moderne.
Sylvain Tesson, par exemple.
Sylvain Tesson, évidemment, qui m'a pas mal inspiré dans la littérature de voyage, mais vraiment tout un tas d'auteurs. Chantal Thomas, qui a beaucoup écrit sur la mer. En ce moment, là, je lis un classique de Annie Ernaux, par exemple, Les années. Et puis, j'ai toute une pile de livres. D'ailleurs, j'ai découvert que ça avait un nom. D'empiler les bouquins et d'avoir plus de livres à lire que ce qu'on arrive à lire. Oui, c'est un nom japonais, c'est ça. Et donc j'essaie de réduire ma pile, mais j'ai toujours envie d'en avoir de nouveaux.
Autre question, le point commun entre 10% Emily in Paris, c'est la prochaine saison de The Crown, d'après vous.
Un truc avec Netflix.
C'est pas...
Ah non, c'est traduit.
Non.
C'est des records.
C'est lié à une comédienne.
Redis.
10%.
Philippine,
Le roi Beaulieu, absolument. Philippine Le Roi Beaulieu, qu'on a vu dans Emily in Paris, qui joue cette parisienne responsable de l'agence de communication. Elle sera dans la prochaine saison de The Crown. Alors elle dit que c'est une petite apparition, qu'elle est heureuse d'en faire partie. Est-ce que vous avez un conseil série à nous donner? Est-ce que vous dévorez de la série?
Non, je suis vraiment pas un consommateur de série.
C'est pas grave.
Parce que j'ai tellement peu de temps, le peu de temps que j'essaie de lire. Et la dernière série que j'ai dû voir, ça doit être 10%. Pour vous dire
d'accord.
que j'ai du retard.
Le cinéma en général, sinon?
Oui, mais pas assez. J'en parle dans mon livre du temps qui manque. Et à un moment donné, j'ai réalisé que pour être, ne pas être dans la frustration permanente, il faut épurer, faire des choix. Et donc il y a des trucs, je veux pas dire que je m'interdis, mais en tout cas, j'accepte que tout n'est pas possible.
Est-ce qu'il y a des projets de films, Guillaume Néry? Parce que vous avez dans plusieurs films.
J'ai fait quelques films, quelques courts-métrages. Là, pour l'instant, je n'en ai pas, des collaborations. J'ai quelques projets, mais disons que je suis pas quelqu'un qui va à tout prix produire des films tous les 6 mois ou tous les ans. Je préfère me laisser inspirer, attendre vraiment une idée particulière, une idée nouvelle. Et là, je la mettrai en œuvre. J'ai plus envie d'écrire, figurez-vous. J'ai beaucoup aimé cet exercice.
Et vous avez une très belle plume. C'est très agréable de vous lire.
Voilà, c'est vrai, jolie plume.
Non, mais j'ai, à titre personnel, j'ai cherché. Je me suis dit, est-ce que c'est écrit en collaboration avec quelqu'un? Pas du tout. En tout cas, c'est pas mentionné. Et vous me le confirmez. C'est très bien écrit. Et je trouve que les pages, notamment consacrées à la plongée, au ressenti, à la façon d'explorer, on a vraiment la sensation de le vivre avec vous. Et je trouve que c'est un véritable talent parce que c'est pas anodin. Voilà. Et
on a c'est suffocant.
Et on a trouvé, c'est le sundoku, le fait d'empiler les bouquins.
Sundoku,
voilà, voilà. Guillaume Néry est toujours notre invité dans la bande originale avec Nature Aquatique aux éditions Artaud. Mais tout de suite, c'est l'heure de chanter avec Jérémy Crédville.
Les amis, la semaine dernière, j'ai déconné, j'ai fait un truc grave.
Comment
sur Instagram, j'ai donné mon avis sur la politique.
Voilà.
Des sauts de merde. Ouais, des sauts de merde. Pour l'occasion, alors, je vous ai fait la plus courte comédie musicale du monde. Elle s'appelle « Ma bite ». Non, ça c'est un ajout du rédacteur. Elle s'appelle « Je ne le ferai plus ». Quand un artiste donne son avis sur la politique, ça donne ça. Il est 20h, c'est officiel, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront pour le second tour des élections présidentielles. Jean-Luc Mélenchon arrive en troisième position, suivi d'Éric Piou. Non. J'éteins la télé, je suis un peu sonné. Retour en arrière après 5 ans de galère. Va falloir réussir à voter pour le moins pire. Ça ne va pas être une mince affaire. Alors, t'es pour qui? Ni l'un ni l'autre. Aucun des deux ne me plaît. Ni l'un ni l'autre.
ne représente mes idées. Pourtant, il va bien falloir choisir pour le moins sombre des avenirs. Ni l'un ni l'autre. Oh, ni l'un ni l'autre.
Tanguy, tu es fabuleux. Vous avez croisé des carpes ?
Bien sûr.
La à l'instant. Je suis en train de me regarder en tout cas. Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, mais à la fin, ça sera quand même soit l'un, soit l'autre qui sera élu. Alors, que pouvons-nous faire ? Barrage, barrage ! Votez contre et ne pas voter pour. Il fait mal ce mauvais second tour. Mon portable vibre. Un message d'une vedette. Signes-tu cette tribune? Mais quelle est cette tribune? Une tribune qui rassemble les artistes du monde de la culture pour faire barrage au Rassemblement National en votant Macron. Qu'a-t-il dit? Macron. Celui dont on n'a pas prononcé le nom. Ah mais non, votez Macron. Faut le faire, même si ça fait chier. Et comme un con, j'ai partagé la tribune du Parisien sur Instagram. Mon Dieu, mais quelle erreur. J'étais si ému de voir qu'on me considérait comme comédien auteur que je me suis emballé. Regardez qui se retrouve entre Charlie Couture et Michel Simès. Eh ben c'est Crêteville qui signe une tribune appelant à voter Macron au second tour pour contrer le parti de Marine Le Pen. Les riches, vous êtes tous pareils. Non mais attendez, je dis juste qu'il faut vendu. Non mais vous avez pas compris, assassin. C'est le retour du pass vaccinal et la privation de nos libertés. Non mais quand je dis qu'il faut voter Macron, tu feras moins le malin quand tes filles devront porter le voile parce qu'elles se seront mariées à Mehdi ou Rachid et qu'elles se feront taper sur la gueule. Attendez, mais ça n'a rien à voir. Mais c'est toi qui as reçu des coups de flashball dans la tronche. Non, toi t'es riche. Oh mon Dieu, attendez, j'ai jamais vu autant de fautes d'orthographe dans les trucs. Ah, on t'a pas demandé ton avis. Reste dans l'humour. Attends, mais mon avis, vous me le demandez tout le temps. Reste dans l'humour. Mais quand j'ai un t-shirt cool dans mes stories, vous me demandez où je l'ai acheté, pourtant je suis pas vendeur de fringues. On s'en fout de ta vie. Les humoristes doivent fermer leur gueule pendant les élections. Mais quand je visite des endroits sympas, vous voulez savoir où je vais? Alors je suis pas guide touristique. On s'en fout. Tu sais même pas parler. Reste dans l'humour. Le vote doit rester secret. Non, il est secret parce que toi t'assumes pas pour qui tu votes. Alors t'assumes de voter Macron. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est le seul moyen de rester dans l'humour. Ok, je joue le 3 et 4 mai à l'Européen. Où ça? À l'Européen. Quand ça? Le 3 et 4 mai. En plus il vient faire sa pub sur la radio publique. Voilà pourquoi, désormais, sur les réseaux sociaux, je me retire de la vie politique. Au revoir.
Pour ceux qui n'auraient pas entendu, le 3 et 4 mai à l'Européen. Mais
après-demain, à l'Européen. Quand ça? Où ça?
Vendredi à Reims, c'est le 6 mai à Berck-sur-Mer.
Merci, Jérémy Crêteville.
Oh, il me fatigue.
J'ai pris 10 ans. On a le souffle coupé, bien entendu. Nature aquatique, Guillaume Néry, aux éditions Artaud. Que faut-il vous souhaiter pour la suite, Guillaume?
Eh ben, de passer le cap des 40 ans avec douceur.
Oh, ça se passe très bien, vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
Pas pour tout le monde.
Ça dépend, oui, il y a des petits séquelles comme ça. Mais la suite, des envies, je ne sais pas, de collaboration,
de l'argent.
On comprend en lisant le livre qu'à la fin du livre, en tout cas, la préservation de la nature, c'est vraiment un de vos grands engagements et un de vos combats, mais aussi sans doute la transmission, la pédagogie pour assurer vraiment un avenir meilleur pour la planète.
Aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire au travers des livres, des films et puis également d'une école que j'ai montée, un centre d'apnée qui s'appelle la Blue Neri Academy, où mon idée c'est d'amener le plus de gens possible à aller dans l'eau, parce que je pense que quand on découvre ce milieu, et alors pour le coup il n'y a pas besoin de passer des niveaux, des trucs pas dits, etc. On met un masque et c'est assez facile finalement, et quand on apprend à ouvrir les yeux sous l'eau, à découvrir la mer, il faut pas grand chose. Et tout de suite, je pense que c'est un premier acte d'engagement, d'adhésion pour derrière créer cette espèce de grand mouvement indispensable, parce que le temps est compté.
Merci Guillaume Néry d'avoir été avec nous. Il y a des excuses peut-être à présenter,
je
pense, Daniel.
Bien sûr, je suis désolé pour vous, pour notre invité Guillaume Néry qui ce matin a battu son record de 7 minutes sans respirer. Le déodorant papaye pistache tabasco de son voisin de table, Jérémy Crêteville, l'a poussé à se retenir pendant 87 minutes et 20 secondes. C'est un record. Bravo Guillaume. Désolé pour tous les amoureux des chats qui ont été choqués par le raccourci atroce de ton Guy Pastureau qui a réduit l'activité de leurs animaux préférés au léchage d'anus. Alors, c'est vrai que c'est un peu court, je demande, même si, enfin bref, non. Désolé pour Guillaume Néry qui défend la notion de tribu, la compréhension de l'autre, le respect du vivant et aussi les graines, l'eau chaude. Et ce matin, il s'est retrouvé face à une bande de salauds qui ne respectent rien, qui détestent tout le monde, qui encouragent la consommation de drogue. Fuyez, partez vite, retournez sous l'eau à la surface. Il n'y a que des gens nuisibles comme nous. Et désolé enfin pour nos fidèles auditeurs qui nous ont reproché d'avoir parlé beaucoup trop d'eau pendant toute cette émission. Ah, c'est vrai que vous n'êtes pas habitués à ça, les amis. Allez, j'annonce demain spécial Calva Poppers avec Joël Pommerat et Jean-Robert Charrier.
Merci Daniel, merci à toute la bande autour de la table, merci à vous Guillaume Néry. En effet, demain Joël Pommerat et Jean-Robert Charrier seront avec nous.